Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui au sommet en cette matinée du jeudi 6 juin 2024. Les commémorations en France du débarquement allié d'il y a 80 ans jour pour jour, soit le 6 juin 1944, avec la volonté d'afficher l'unité des Occidentaux sur fond de guerre en Ukraine. Vladimir Poutine assure que son pays n'a pas d'ambition impériale et ne prévoit pas d'attaquer l'OTAN. Et pendant ce temps, son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a conclu au Tchad sa tournée en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une quinzaine de civils tués dans l'est de la RDC dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF. En Afrique du Sud, ça discute toujours entre l'ANC et divers partis d'opposition pour former un gouvernement d'union nationale. En sport, le Kenya Ronex Kipruto, recordman du monde de 10 km suspendu 6 ans pour dopage. Les détails dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie, mais d'abord le journal. Le président américain Joe Biden est arrivé aujourd'hui en France où son homologue Emmanuel Macron lance les commémorations du débarquement allié du 6 juin 1944 avec la volonté d'afficher l'unité des Occidentaux sur fond de guerre en Ukraine. Jacques Aristide.
Ces morts furent les victimes de notre combat pour la liberté et la patrie, a déclaré le chef de l'État français Emmanuel Macron. Le débarquement en Normandie, organisé dans le plus grand secret par les Américains, les Britanniques et les hommes du général de Gaulle, allait ouvrir la voie à la défaite de l'Allemagne nazie. Le président américain Joe Biden, arrivé hier en France, doit s'exprimer aujourd'hui lors des cérémonies officielles sur les plages normandes de Utah et d'Omaha Beach, où 73 000 Américains courageux débarquèrent pour ouvrir la voie à la libération de la France et de l'Europe, selon la Maison-Blanche. En marge de ce programme, le président Biden doit s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour voir comment Washington peut continuer à approfondir son soutien, toujours d'après l'exécutif américain.
Le président russe Vladimir Poutine a assuré que son pays n'a pas d'ambition impériale et ne prévoit pas d'attaquer l'OTAN. Plus de 2 ans après le début de l'offensive contre l'Ukraine, ne cherchez pas ce qui n'existe pas, ne cherchez pas nos ambitions impériales, elles n'existent pas, a déclaré Vladimir Poutine en réponse à une question de l'AFP sur la présence des drapeaux de la Russie contemporaine, de la Russie impériale et de l'URSS devant le siège de Gazprom où la rencontre avec les journalistes avait lieu. Par contre, Vladimir Poutine a menacé de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de frapper les intérêts occidentaux si l'Occident autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec ses missiles de longue portée. L'Ukraine réclame ce droit depuis des mois. Le président Poutine a aussi dénoncé un anéantissement total de la population civile à Gaza, où Israël mène depuis 9 mois une guerre contre le Hamas après une attaque du mouvement islamiste sur le sol israélien le 7 octobre. Il a aussi affirmé qu'il fallait construire des relations avec le gouvernement taliban en Afghanistan. La Cour d'appel de l'État de Géorgie a suspendu la procédure pénale contre Donald Trump et ses 14 co-prévenus pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020 jusqu'à ce qu'elle ait statué sur leur demande de dessaisissement de la procédure de la procureure. Le juge à ce procès, Scott McPhee, avait rejeté en masse la demande de dessaisissement de la procureure Fannie Willis, mais exigé une réorganisation de son équipe. Les accusés avaient fait appel. La Cour d'appel de l'État de Géorgie a fixé son audience sur cette affaire au 4 octobre, sa décision n'étant pas entendue avant 2025. Les sénateurs républicains ont bloqué une loi garantissant un droit à la contraception que les démocrates proposaient pour attirer l'attention sur les menaces pesant, selon eux, sur l'avortement et les droits reproductifs à quelques mois de l'élection présidentielle aux États-Unis. Un sondage récent de la Kaiser Family Foundation montre qu'un Américain d'âge adulte sur 5 craint que la contraception soit un droit menacé qui risque d'être supprimé après les sévères limitations au droit à l'avortement mises en place dans des États conservateurs depuis 2 ans. Lors d'un vote préliminaire, le projet de loi n'a pas reçu le soutien d'au moins 60 sénateurs sur 100, empêchant qu'il soit étudié. La gouverneure démocrate de l'État de New York a fait volte-face en annonçant la suspension sine die de l'ouverture prévue fin juin d'un péage urbain controversé dans une partie de Manhattan. L'objectif de cet impôt direct de $15 par passage prélevé à l'entrée du centre de Manhattan, un des 5 arrondissements de la mégapole, était de désengorger les grandes avenues qui irriguent l'île et d'améliorer la qualité de l'air. Très critiqué, le projet porté avait fait l'objet de recours administratifs par des associations de taxis et VTC ainsi que par l'État voisin de New Jersey. Près de 700 000 véhicules auraient dû être concernés. Les États-Unis ont félicité le Premier ministre indien Narendra Modi pour sa victoire aux élections législatives, disant vouloir œuvrer pour une Asie libre et ouverte. Et puis, un premier cas mondial de décès humain dû à la grippe aviaire de type H5N2 a été attesté au Mexique, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Âgée de 59 ans, la personne est décédée le 24 avril dans un institut spécialisé de la capitale mexicaine, quelques heures après y avoir été hospitalisée, a indiqué l'OMS. Le patient, un homme, avait développé le 17 avril de la fièvre, un essoufflement, j'y arrive, de la diarrhée, des nausées et un malaise général, a indiqué l'OMS. La souche H5N2 est différente de celle H5N1 en lien avec l'épidémie en cours chez les vaches aux États-Unis et pour laquelle 3 cas humains ont été rapportés.
Sergueï Lavrov a atterri en N'Djamena en milieu d'après-midi à la tête d'une imposante délégation. Le Tchad est l'une des dernières pièces manquantes au schéma que Moscou essaie de construire dans le Sahel, ex-sphère d'influence de la France. Auparavant, il a offert à la Guinée, au Congo-Brazzaville et au Burkina Faso de renforcer leur coopération économique, commerciale et surtout militaire pour détruire les poches de terrorisme au Sahel. En Guinée, première étape de sa tournée, M. Lavrov a félicité ce pays pour avoir été à l'avant-garde du processus de décolonisation. Au Congo, il a vilipendé l'Occident pour son action en Libye. Au Burkina Faso, il a promis d'augmenter la présence des instructeurs russes. La Russie mène depuis plusieurs années une offensive diplomatique en Afrique pour contrer les puissances occidentales et elle a décuplé ses efforts depuis son invasion de l'Ukraine en février 2022.
Vous l'aurez compris, il s'agissait bien sûr du point fait par Rosine Mounessero sur le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a conclu au Tchad une tournée en Afrique de l'Ouest et du Centre, semée de propos aux accents anti-occidentaux. Une quinzaine de civils ont été tués mardi dans l'Est de la République démocratique du Congo dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF affiliés au groupe État islamique. Les détails avec Nanit Talani.
Cette incursion des rebelles ADF, Force démocratique alliée, a eu lieu dans la matinée dans le village de Massaou, à la limite des territoires de Beni, dans la province du Nord Kivu, et de Mambasa, dans la province de l'Ituri, ont précisé ses sources. 15 corps ont été amenés mercredi à la morgue de la commune voisine de Mangina. Les familles viennent pour identifier les corps. C'est une désolation totale, a indiqué un témoin. Le bourgmestre ou maire de Mangina, Roki Muvunga, a de son côté chiffré à 14 le nombre de morts, tandis qu'un responsable de la société civile parle d'une douzaine de corps retrouvés, 3 femmes et 9 hommes selon lui. Il y a aussi des disparus, ajoute ce responsable, précisant également que 8 maisons et 7 motos avaient été brûlées par les assaillants. Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC où ils tuent des milliers de civils et commettent des pillages. Les armées de la RDC et de l'Ouganda mènent depuis fin 2021 des opérations conjointes contre eux mais ne sont pas encore parvenues à stopper leurs exactions. Les ADF, à l'origine des rebelles ougandais, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC où ils tuent des milliers de civils et commettent des pillages. Les armées de la RDC et de l'Ouganda mènent depuis fin 2021 des opérations conjointes contre eux, mais ne sont pas encore parvenues à stopper leurs exactions.
Des discussions en Afrique du Sud entre l'ANC et divers partis d'opposition sont en cours pour former un gouvernement d'union nationale. Le parti au pouvoir depuis 30 ans a issué un revers électoral aux législatives la semaine dernière. Ces résultats montrent que les Sud-Africains veulent que tous les partis travaillent ensemble, a déclaré la porte-parole de l'ANC, Malengi Bengu Mutsiri. Le parti qui veut désormais œuvrer à construire un consensus national sur la forme de gouvernement la plus adaptée a tenu des pourparlers exploratoires avec plusieurs formations politiques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le régulateur du cacao a informé les exportateurs que les contrats différés de mi-récolte de la saison 2023-2024 et qui s'élèvent à environ 150 000 tonnes ne bénéficieront pas de la remise de 60 francs CFA par kilo. Cette réduction vise à compenser le fait qu'à mi-saison, les fèves sont plus petites et plus acides, plus difficiles à exporter et à moudre. C'est une perte de 9 milliards de francs CFA pour les exportateurs concernés, a réagi une société d'exportation à Abidjan. La croissance du PIB du Kenya s'est accélérée pour atteindre 5,6% en 2023, dépassant les 4,9% de 2022, assure la Banque mondiale. La croissance a été tirée par la reprise du secteur agricole suite à l'amélioration des conditions météorologiques ainsi que par le secteur des services, le tourisme et les services financiers. Pour terminer, en Ouganda, un militant faisant campagne pour empêcher le développement d'un oléoduc de 5 milliards de dollars en Afrique de l'Est par la société française Total Energy et d'autres sociétés a été arrêté par l'armée. Le pipeline de 1445 km doit transporter le brut des champs pétroliers de l'ouest de l'Ouganda à travers la Tanzanie jusqu'à un port sur la côte tanzanienne.
Sans transition, les nouvelles sportives avec Eric Maniratiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Athlétisme pour commencer, le Kenya Ronex Kipruto, recordman du monde du 10 km, suspendu 6 ans pour dopage.
C'est après que le tribunal disciplinaire a conclu que des irrégularités dans son passeport biologique étaient la conséquence de dopage. L'unité d'intégrité de l'athlétisme précise que son record du monde allait être annulé. Âgé de 24 ans, Ronex Kipruto est une valeur sûre de l'athlétisme kényan. Il avait décroché le bronze du 10 000 mètres au championnat du monde de Doha en 2019 avant de devenir recordman du monde du 10 000 km route 26 minutes 24 secondes en 2020 à Valence. Le Kenya et ses spécialistes des courses d'endurance sont à l'origine de très nombreux cas de dopage ces dernières années.
Football à présent, en France, Brest a proposé à l'UEFA de jouer la Ligue des Champions à Guingamp.
Le stade brestois, troisième de Ligue 1, est qualifié directement pour la Ligue des Champions, a comme attendu proposé à l'UEFA de jouer ses matchs de Champions League à Guingamp, a indiqué mercredi l'instance européenne. Des experts de l'organisation basée à Nyon en Suisse visiteront la semaine prochaine le stade de Rodourou pour s'assurer de sa conformité aux normes de la compétition, a précisé un porte-parole, confirmant une information du quotidien L'Équipe.
Manchester City frustré par les références aux soupçons d'infraction le visant.
Le président de Manchester City, Khaldoun Al-Moubarak, a reconnu le caractère frustrant des fréquentes références aux soupçons d'infraction financière visant son club, qui vient d'être sacré champion d'Angleterre pour la quatrième fois d'affilée. Racheté en 2008 par un fonds d'investissement des Émirats, Manchester City est ciblé par la Premier League pour plus d'une centaine de possibles infractions aux règles financières à partir de 2009. Mardi, le quotidien Times a révélé que Manchester City poursuivait la Premier League et son règlement sur les contrats de sponsoring en dénonçant une possible discrimination le concernant. En février, la Premier League a durci les règles encadrant les accords de partenariat commercial passés avec des sociétés liées aux propriétaires des clubs.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yakuba Ouedraogo, toujours avec vous, pour vous présenter les dossiers du jour. Ici aux États-Unis, une étude publiée mardi affirme que la haine et l'extrémisme ont augmenté dans le pays en 2023, avec un nombre record de nationalistes blancs et de groupes anti-homosexuels tentant de saper la démocratie inclusive du pays. Véronica Balderas Iglesias de la VOA détaille les conclusions des chercheurs et leurs implications pour l'élection présidentielle de novembre. Récit Jacques Aristide.
Dans son rapport, le Savant Poverty Law Center indique que l'an dernier, la communauté LGBT a été l'une des principales cibles de la haine et de l'extrémisme en Amérique. L'association ajoute que la rhétorique haineuse et les théories du complot anti-gouvernemental ont eu un impact négatif sur les immigrants, les personnes de couleur et les communautés religieuses minoritaires. Via Skype, RG Craven du Southern Poverty Law Center.
Ces extrémistes, ceux qui s'opposent à la démocratie inclusive, ont passé l'année dernière à légitimer l'insurrection, à présenter la haine comme vertueuse et à transformer les théories du complot en courant de pensée dominant. Et ils se préparent tous, je dirais, à l'une des élections les plus importantes de notre histoire.
Pour RG Craven, les groupes anti-gouvernementaux s'immiscent dans la politique avec un objectif précis.
Limiter le pluralisme, c'est limiter la participation, c'est limiter la démocratie elle-même.
En vue de la présidentielle de novembre, le démocrate Joe Biden se présente comme la seule option viable pour mettre un terme à la montée des discours de haine.
Je ne vais pas laisser Donald Trump transformer l'Amérique en un pays qui ne croit pas à l'honnêteté, à la décence et au traitement des gens avec respect. Et certainement, je ne laisserai pas Donald Trump transformer l'Amérique en un pays rempli de colère, de ressentiment et de haine.
Quand il était président, Donald Trump avait provoqué la polémique après un rassemblement nationaliste blanc en 2017 à Charlottesville, en Virginie. Il avait alors accusé les manifestants et contre-manifestants d'être responsables des violents affrontements. Un suprémaciste blanc au volant d'une voiture avait délibérément foncé sur une foule de contre-manifestants, tuant une femme et blessant plus de 30 personnes. À l'époque, Trump avait parlé d'une démonstration flagrante de haine, d'intolérance et de violence venant de plusieurs fronts. Trump, actuel candidat républicain à la Maison-Blanche, s'est rangé du côté de groupes qui ont mené campagne en faveur de l'interdiction de livres, des groupes tels que Moms for Liberty, que le Southern Poverty Law Center a de nouveau qualifié en 2023 de groupe extrémiste anti-gouvernemental opposé à l'éducation inclusive.
La gauche radicale calomnie même Moms for Liberty en qualifiant l'organisation de supposé groupe haineux. Vous êtes un groupe haineux. Pouvez-vous imaginer cela? Moms for Liberty, un groupe haineux?
Moms for Liberty a décliné la demande d'interview de la VOA. Des experts sont d'avis que les candidats doivent faire attention à leur discours à l'approche du scrutin. Till Rothschild est professeur de sociologie à l'université Roger Williams.
For Biden to continue to be present and
que Biden continue d'être président et de parler de paix, mais aussi de l'importance de voter en général. En ce qui concerne l'ancien président Trump, il se trouve dans une situation délicate car il obtient certainement plus de soutien lorsqu'il utilise un langage extrémiste, mais il marginalise également les populations susceptibles de voter.
Rothschild suggère aux électeurs de se méfier des théories du complot dans les médias grand public et sociaux qui pourraient alimenter davantage la haine et l'extrémisme.
En Afrique du Sud, encouragé par la sous-représentation et l'augmentation du nombre d'électeurs inscrits pour les prochaines élections générales, les jeunes ont pris la décision d'entrer dans l'espace politique. Irfan Mangira est un jeune activiste qui se présente pour un siège de parlementaire dans la province de Gauteng. Ces derniers temps, il passe le plus clair de son temps à faire campagne pour courtiser les électeurs qui se disent frustrés par ce qu'ils considèrent comme l'échec de l'ancienne génération. Davantage avec Issan Hafidji, le récit est de Gininiwa.
Mangira, 27 ans, n'était même pas né lorsque l'Afrique du Sud a organisé ses premières élections démocratiques post-apartheid il y a 30 ans. Il estime que la jeune génération doit participer au processus politique et se présenter aux élections afin de pouvoir changer les choses dans son pays.
Beaucoup de jeunes sont désillusionnés et ont l'impression que le système ne leur est pas favorable. Et à juste titre, parce que le Parlement est rempli de personnes âgées. Il n'y a pas de véritable représentation des jeunes dans les instances dirigeantes. Ils ont donc l'impression de ne pas avoir leur place. C'est donc très difficile.
Selon une étude menée par le groupe de suivi parlementaire, les personnes âgées de 15 à 34 ans représentent plus de 63% de la population sud-africaine, mais elles n'occupent que 9% des sièges parlementaires. L'âge moyen des députés qui occupent actuellement des sièges au Parlement est de 59 ans. L'appel à une plus grande représentation des jeunes dans la politique sud-africaine se fait de plus en plus pressante pour les élections générales du 29 mai.
Ce voyage m'a montré que le système doit changer pour créer plus de représentation et une véritable représentation, pas seulement une approche symbolique pour traiter ce problème. L'obstacle, c'est aussi que les jeunes doivent se prendre au sérieux. Une fois que nous l'avons fait, nous constatons que nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Nous pouvons acquérir suffisamment de pouvoir pour élire certains d'entre nous à des postes de direction.
Malgré 30 ans de démocratie, les jeunes Sud-Africains sont mécontents de la montée en flèche du taux du chômage des jeunes dans le pays. Selon les données du gouvernement, le taux de chômage était de 32% au quatrième trimestre 2023. Au cours de cette période, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 34 ans a augmenté pour atteindre 44%.
Nous n'avons pas vu les problèmes des jeunes être pris au sérieux en ce qui concerne la drogue et le peu de soutien aux loisirs, au sport, aux arts et à la culture. Nous constatons un manque d'appréciation et de soutien à l'égard des jeunes qui disent à la société et aux dirigeants que nous sommes de plus en plus désespérés, que nous n'avons pas accès à l'éducation et que nous n'avons pas la possibilité d'améliorer nos compétences.
Bien que la commission électorale qui supervise les élections ait lancé une campagne pour que davantage de jeunes s'inscrivent sur les listes électorales, des chiffres récents indiquent que près de 14 millions de personnes, une majorité de jeunes, ne sont toujours pas inscrites. De jeunes politiciens comme Mandjera pensent que les jeunes doivent être le moteur du changement dans le système politique sud-africain.
Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être plus nombreux à l'intérieur à mener ce combat pour que nous puissions aussi inspirer notre génération vers une nouvelle mission qui construise un pays sûr, égal et prospère.
Irfan Mandjera et son nouveau parti politique tentent de faire face à un environnement difficile en tentant de rivaliser avec des partis politiques plus anciens et plus établis comme le Congrès National African et l'Alliance démocratique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Zimbabwe, de nombreux enfants ne prennent qu'un repas par jour à cause de la sécheresse liée à El Nino qui affecte l'agriculture. Une avocate a créé la fondation Kushengetana qui distribue des repas dans les communautés rurales. Nathalie Bache.
À Karibone, communauté rurale près de Harare, les récoltes sont mauvaises ou brûlées à cause de la sécheresse liée au phénomène El Niño. Certains parents ont signalé que leurs enfants allaient parfois au lit sans manger ou après un seul repas par jour. Aujourd'hui, des femmes ont préparé pour eux des macaronis et du ragoût de soja. Depuis janvier, l'avocate Samantha Muzoroki a organisé 5 points de distribution de repas dans la région.
Lorsque nous avons commencé à Chitunguza, mon intervention s'inscrivait dans une perspective maternelle. En tant que mère, femme et membre d'une communauté, j'estimais devoir intervenir lorsque j'entendais les pleurs d'un enfant voisin disant qu'il n'avait pas mangé depuis la veille.
La fondation Kuchengetana fournit 2 repas quotidiens à environ 1500 enfants. Elle reçoit $400 par trimestre. C'est moins de la moitié de ses besoins, selon Madame Muzoroki. Nicolas Alipoui, représentant de l'UNICEF au Zimbabwe, souligne que l'organisation a lancé un appel de fonds le mois dernier pour répondre aux besoins urgents.
Our request is for children.
Notre demande concerne les enfants les plus vulnérables dans les districts les plus touchés, dans les domaines de la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'éducation, la protection sociale, ainsi que les femmes, et jusqu'à 84,9 millions de dollars.
À Epworth, à l'est de Harare, Letuin Mandé, mère de 4 enfants, fait survivre sa famille avec moins de 2 dollars par jour en vendant quelques fruits et légumes. Son mari est au chômage.
La nourriture est un grand défi et les enfants emportent parfois des collations à base de maïs à l'école. C'est différent des années précédentes. Lorsque nous avions de bonnes saisons de pluie et que je pouvais au moins préparer quelque chose de décent pour eux, aujourd'hui, nous ne pouvons nous permettre de prendre qu'un seul repas par jour.
Le mois dernier, le président Emmerson Mnangagwa a affirmé que 1 million de personnes et que son pays a besoin de 2 milliards de dollars pour faire face à la situation. Le Zimbabwe, la Zambie et le Malawi, gravement touchés par la sécheresse, ont récemment déclaré l'état de catastrophe naturelle. Dans certaines régions, 80% des récoltes de maïs ont été décimées.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Rendons-nous à Koro, dans la région malienne de Bandiagara, pour parler de la revalorisation du textile local au plateau d'Ogon. Le bogolan, l'indigo et les pagnes tissées sont fabriqués par les artisans de la région, des produits qui reflètent l'identité culturelle de la région de Bandiagara. Malgré la crise sécuritaire qui a eu un coup dur sur le secteur, les artisans travaillent pour la revalorisation du textile traditionnel de Koro. La correspondance de Tidjani Ouedraogo.
Salutations matinales sous les grands arbres du village. Ici, les femmes se retrouvent tous les jours pour transformer les cotons en fibres. Ce travail est un héritage familial pour certaines d'entre elles comme aliment.
La transformation du coton est un héritage familial, une tradition qu'on doit respecter.
Le tissage est un travail complexe. Nous sommes dans le village de Edubara. Les femmes transforment le coton en fibres et semblent tirer profit de cette activité.
Nous transformons le coton en fibres. Je peux économiser 15 à 20 000 francs par mois si la demande est forte.
Les fibres de coton sont ensuite remises au tissera qui lui fait appel à sa créativité pour produire un tissu en plusieurs motifs.
Il faut avoir de la passion et de la créativité pour pratiquer ce métier. C'est le seul travail que j'ai appris de la vie.
Des tissus bien sollicités lors des festivals culturels. Fait partie intégrante de l'identité culturelle du plateau de Rouen, comme l'explique Yacouba Traoré, producteur de Bogolan.
Bien avant la crise sécuritaire, je revendais le Bogolan dans les pays comme la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Le marché était vraiment rentable.
La confection du tissu est une tradition qui a résisté au temps. Malgré l'impact de la crise sécuritaire sur les secteurs, les artisans se donnent comme mission de revaloriser les textiles traditionnels. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique Koro.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Voilà, c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouedraogo, Sims Lumami à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.